Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu coronavirus, l'épidémie se répand au Moyen-Orient et en Europe, mais tu moins en Chine. La réponse du Mali et du Burkina Faso face à la menace terroriste au Sahel, évoquée au Conseil des droits de l'homme. La conversation mondiale lancée par l'ONU à l'occasion de son 75e anniversaire, fait étape à Genève. Enfin, en dossier, nous reviendrons sur la crise humanitaire qu'entraînent les attaques terroristes au Burkina Faso. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a lancé ce mercredi un appel à la solidarité mondiale face à l'épidémie de coronavirus. L'épidémie partie de Chine se répand désormais au Moyen-Orient et en Europe. Jérôme Bernard nous en dit plus.
L'heure est à la solidarité mondiale, solidarité politique, solidarité technique et solidarité financière. C'est l'appel lancé ce mercredi à Genève par le chef de l'OMS. Selon Dr Tedros, c'est la seule façon de prévenir les infections et de sauver des vies. Cet appel intervient alors que le coronavirus se propage désormais à travers l'Europe et une bonne partie du Moyen-Orient. En dehors de la Chine, d'où est partie l'épidémie, on compte aujourd'hui 2790 contaminations dans 37 pays et 44 décès. Depuis mardi, le nombre de nouveaux cas signalés en dehors de la Chine a dépassé pour la première fois le nombre de nouveaux cas en Chine. L'augmentation soudaine du nombre de cas en Italie, en Iran et en Corée du Sud est jugée très préoccupante. Des cas liés à l'Iran ont ainsi été relevés au Bahreïn, en Irak, en Afghanistan, au Koweït et à Oman. Des cas liés à l'Italie ont été signalés en Algérie, en Autriche, en Croatie, en Allemagne, en Espagne et en Suisse. Dans ces conditions, après le déploiement mardi à Rome d'une équipe conjointe de l'OMS et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, une autre équipe de l'agence onusienne est attendue ce week-end en Iran. De façon générale, le chef de l'OMS avertit qu'il ne s'agit pas seulement d'un combat pour contenir un virus et sauver des vies, mais de se battre pour contenir les dommages socio-économiques qu'une pandémie mondiale pourrait causer.
La réponse du Mali et du Burkina Faso face à la menace terroriste au Sahel a été évoquée à la 43e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève ce mercredi. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme du Mali a fait état des progrès dans la mise en œuvre de l'accord de paix, de la commission Justice, Vérité et Réconciliation ou du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Malik Koulibaly a toutefois souligné que l'accord de paix ne prend pas en charge toutes les dimensions de la crise qui a évolué, notamment la situation au centre du Mali.
Si des progrès réels ont été enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord, il reste que celui-ci ne prend pas en charge toutes les dimensions de la crise, notamment la situation dans les régions du centre du pays en proie aux attaques asymétriques perpétrées par des groupes terroristes alliés aux narcotrafiquants, aux trafiquants en tout genre et bénéficiant du soutien des combattants de l'État islamique défaits au Levant et redéployés au Sahel, qui s'emploient au quotidien à déstabiliser davantage le Mali, les pays voisins et la région, sémant ainsi la terreur et dressant nos populations les unes contre les autres. Leurs actes criminels servent de levain aux violences intercommunautaires, lesquelles ne cessent d'endeuiller notre pays et les pays frères voisins. En réponse à cette préoccupation majeure, le gouvernement a mis en place un plan de sécurisation intégré des régions du centre destiné à rétablir la présence de l'État dans cette partie du pays.
La conversation mondiale qu'a lancée cette année l'ONU à l'occasion de son 75e anniversaire a fait étape cette semaine à Genève. Lors d'une discussion à l'Institut des hautes études internationales et de développement, le secrétaire général de l'ONU a échangé avec des jeunes sur l'avenir du monde. Pascal Sim nous en dit plus.
À l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, plus de 600 jeunes étaient réunis ce mardi pour échanger avec le secrétaire général de l'ONU. Des jeunes qui ont plaidé auprès d'Antonio Guterres pour une ONU plus démocratique, plus ouverte et plus participative, comme Iva Louirna, qui est intervenue dans la langue de Molière.
Monsieur Guterres, si vous le permettez, je veux m'exprimer avec la langue de mon cœur, c'est-à-dire le français. Mon idée n'est pas inédite, mais tout comme la paix, c'est parfois les idées les plus simples qui sont aussi les plus sages. D'après moi, l'isolement dans lequel certains pays se renferment, comme le nationalisme, le racisme, l'isolationnisme, le pointage de la culpabilité vers d'autres pays, les problèmes de free riding, etc., causent de grands problèmes dans ce monde. Au contraire, au niveau national, les sous-divisions coopèrent souvent vers un objectif commun. Et c'est l'organisme national qui permet ce chapeautage. Si l'on arrivait à créer une organisation mondiale suffisamment forte, ou en d'autres termes renforcer l'ONU, de manière qu'elle puisse agir sur les pays tels que les États agissent sur leurs sous-divisions, nous arriverions à améliorer de nombreux aspects mondiaux actuels, tels que les actions environnementales, la coopération pour la paix, la redistribution pour les ressources, etc.
Les espoirs et les craintes émises par les jeunes comme Ivalu Hirna, ainsi que leurs propositions pour rendre les Nations Unies plus efficaces, seront présentées aux dirigeants mondiaux et aux hauts responsables de l'ONU lors de la prochaine Assemblée générale.
Retour sur la crise au Sahel. Au Burkina Faso, les attaques terroristes entraînent une crise humanitaire sans précédent. Selon les autorités locales, plus de 20 000 personnes ont trouvé refuge dans la seule commune urbaine de Kungusi, à 2 heures de Ouagadougou. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en un an, la violence au Sahel a déplacé plus de 700 000 personnes au Burkina Faso. L'adjoint au maire de Kungusi parle de catastrophe pour évoquer le sort des personnes déplacées. Benjamin Sawadogo est au micro de Karim Djinko, l'envoyé spécial de Radio Mikado FM.
Le centre nord a été vraiment touché par le terrorisme. On peut même dire que c'est la région qui a été la plus touchée. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à Kungusi, vous sentez vraiment qu'il y a eu une grande affluence de gens qui sont venus de partout. Alors ce sont des déplacés internes. Il y a beaucoup de sites de déplacés qui sont là. On ira à plus de 20 000 déplacés internes au niveau de Kungusi. Donc ça fait que c'est vraiment une catastrophe. Dieu merci, avec les différentes ONG et les organisations internationales, on arrive peut-être à les gérer pour le moment. En tout cas, ils sont là, ils sont chaque jour soutenus. Mais pour combien de temps encore? Parce que ça prend du temps. Quand ça dure, ça va être difficile à la fin.
À moyen terme, j'imagine que le nombre de déplacés va augmenter. Quel genre de pression ça peut représenter sur les finances de la région?
Avec le temps, le nombre de déplacés internes augmente. Tout récemment, nous avions cru qu'en fait, avec la petite accalmie qu'on avait eue, les gens allaient pouvoir rentrer chez eux. Mais malheureusement, les attaques ont repris. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore ceux qui étaient repartis, qui sont revenus. Ça fait une grande affluence. Et au niveau de la ville de Kungusi, il y a eu également beaucoup de gens qui sont venus en aide aux déplacés avec tout ce qu'ils avaient. Au début, ils avaient même essayé à chaque fois de les préparer pour les déplacer chaque jour. Donc, au fil du temps, et les organisations internationales ont pris le dessus et sont venus également au secours des déplacés, le HCR et autres, avec les tentes et autres, avec de quoi manger. Et aujourd'hui, en tout cas, presque chaque jour, on sent que les déplacés ont quelque chose à prendre au niveau de l'action sociale. Mais vraiment, on se demande si ça va pouvoir durer longtemps. Parce que jusqu'à présent, on ne sent pas les gens vouloir repartir chez eux. On est vraiment angoissé parce qu'on sait que jusque-là, les gens ne peuvent pas repartir. C'est comme s'ils essaient de repartir. Alors, on faisait tout pour qu'ils reviennent. Voilà, donc ça, c'est un problème pour nous aujourd'hui.
Et ces déplacés ont des enfants qu'il faut scolariser. Est-ce que la région a des moyens, justement, d'absorber ce surplus d'élèves dans les écoles?
Oui, c'est exact. Ils sont venus avec beaucoup d'enfants. Des enfants qui sont déjà scolarisés, des enfants non encore scolarisés parce qu'ils sont à bas âge. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la ville de Kungusi, on a fait tout le nécessaire pour que ceux qu'on peut en fait encadrer ont été encadrés. Ceux qui sont en classe d'examen ont été recensés et on a pu leur trouver des abris de fortune où ils arrivent à être encadrés. Alors pour qu'ils puissent en fait passer l'examen en fin d'année. Mais il y a un bon nombre qui sont dans les classes intermédiaires et autres, qui sont là, qui sont dans la rue. C'est là le problème. Parce que s'ils restent trop longtemps dans la rue, nous avons peur qu'ils ne deviennent comme ceux-là dont on a peur là. Parce qu'avec un peu d'argent, on peut amener les gens à faire un certain nombre de choses. Nous avons vraiment peur que ces enfants qui sont dans la rue ne durent pas longtemps dans la rue. Il faut qu'on arrive à trouver des stratégies pour les absorber au niveau de l'école.
Est-ce que Kungusi est à l'abri d'attaques? Parce qu'on parle de villages pas très très loin de la ville de Kungusi. Est-ce qu'au niveau du cordon sécurité, on a ce qu'il faut justement pour prévenir?
Bon, je ne peux pas dire que nous sommes à l'abri ou nous ne sommes pas à l'abri des attaques. Parce que quand on regarde tout le Burkina, il n'y a pas cette localité qui peut dire qu'elle est à l'abri d'une attaque. Nous prions toujours Dieu pour qu'on n'ait pas d'attaque. Sinon, au jour d'aujourd'hui, rien ne peut se dire. C'est vrai que les FDS font ce qu'ils peuvent pour sécuriser. C'est difficile. Nous sommes contents parce que depuis un certain temps, on a mis en œuvre un système qui fait qu'à partir de 19h30, les motos d'une certaine cylindrée et les tricycles ne roulent plus. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça a pu en tout cas empêcher un certain nombre de gens. Puisque vous savez très bien que souvent quand ils arrivent, c'est sur ces grosses motos. Donc ça permet quand même d'arrêter un certain nombre de choses.
Voilà la fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.